VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'agitation anglophone au Cameroun. Ouverture à Yaoundé d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale camerounaise à la demande du président Paul Biya pour examiner un projet de loi sur la décentralisation du pays en proie à un conflit meurtrier dans ces deux régions anglophones. La mise en œuvre du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est au cœur du projet de loi en examen. Au cours de cette session extraordinaire, a souligné la télévision d'État CRTV sur Twitter. Objectif, selon le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril, donner un coup d'accélérateur au processus de décentralisation. Une des suggestions du grand dialogue national organisé début octobre pour mettre fin à la crise dans les régions anglophones, où les affrontements entre les forces de sécurité camerounaises et les séparatistes armés ont fait plus de 3000 morts. Depuis ce dialogue, boycotté par les indépendantistes, la violence s'est intensifiée dans les régions anglophones situées dans l'ouest du pays à la frontière avec le Nigeria. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale durera au maximum 15 jours. Le Sénat se réunit également en session spéciale. Épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, 23 nouveaux cas de fièvre hémorragique ont été enregistrés en 4 jours, près des zones où la lutte contre l'épidémie est paralysée par l'insécurité. Les détails avec Eddy Isango.
10 nouveaux cas ont été enregistrés dans la seule journée de mardi à Mabalako, au Nord Kivu. 6 autres ont été notifiés lundi, dont 3 médecins traditionnels, selon les comités multisectoriels de la riposte de l'épidémie. Mercredi, 3 cas ont été recensés dans le Nord Kivu, dont un dans une localité Biena qui n'avait connu aucune notification depuis 85 jours. L'activité de la riposte anti-Ebola est paralysée dans 3 zones de santé, Beni, Biakato, Mangina, pour des raisons sécuritaires. Le 28 novembre, une chargée de la vaccination et 2 chauffeurs ont été tués dans une attaque à Biakato en Ituri. Un policier a été tué dans une attaque simultanée à Mangina dans le Nord Kivu. L'OMS et l'ONG MSF ont retiré leurs équipes non congolaises à Biakato. Ebola était en retrait, ces attaques vont redonner de la vigueur à l'épidémie et par conséquent, plus de gens vont mourir, avait déploré le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, après la double attaque de Biakato Mangina. Plus de 2210 personnes sont mortes depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août 2018.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Maintenant, le groupe État islamique a revendiqué hier l'attaque meurtrière contre le camp militaire d'Inates dans l'ouest du Niger qui a fait 71 morts et des disparus. Niamey s'apprête à inhumer ses soldats et un deuil national de 3 jours a été décrété par le président nigérien Mahamadou Issoufou. Les précisions avec Irénée Herman Umbo.
Le deuil national a commencé hier, selon la présidence nigérienne, qui indique aussi que la levée des corps des soldats tués aura lieu ce vendredi à la base aérienne de l'armée près de Niamey. Je m'incline devant la mémoire de nos soldats tombés à Inate, les armes à la main, a écrit le président Mahamadou Issoufou sur Twitter. Des centaines d'assaillants du groupe État islamique, qui a revendiqué l'attaque, ont mené mardi un assaut de plusieurs heures contre le camp militaire d'Inate, infligeant un revers sans précédent à l'armée nigérienne. Monsieur Issifou a dû écourter sa visite en Égypte pour revenir à Niamey où il a présidé hier matin une réunion du Conseil national de sécurité dont rien n'a filtré. Le président français Emmanuel Macron a condamné cette attaque et a annoncé le report à janvier du sommet avec les leaders du G5 Sahel qui devait se tenir lundi prochain à Pau dans le sud-ouest de la France.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection présidentielle en Algérie, Abdelmadjid Tebboune, ancien ministre puis chef de gouvernement de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, a été élu dès le premier tour pour succéder au président déchu à la tête de l'État algérien. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'autorité nationale des élections. Monsieur Tebboune, 74 ans, a recueilli 58,15% des suffrages, a souligné le président de cet organisme, Mohamed Chaoufi, lors d'une cérémonie officielle au lendemain d'un écoute est marquée par une abstention record et qui s'est déroulée dans un contexte de contestation massive du régime au pouvoir en Algérie depuis l'indépendance en 1962. L'islamiste Abdelkader Ben Grina, 57 ans, dont le parti a soutenu la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, arrive en deuxième position avec 17,38% des voix, selon M. Chaoufi. Troisième avec 10,55% des suffrages, Ali Benflis, un ex-premier ministre du président Bouteflika entre 2000 et 2003. Seuls 39,93% des électeurs inscrits ont voté selon l'autorité électorale, le taux le plus faible de toutes les élections présidentielles pluralistes de l'histoire de l'Algérie. Actualité aux États-Unis maintenant, au Congrès américain, la commission judiciaire de la Chambre des représentants contrôlée par l'opposition démocrate est en session à Washington. Et après une longue journée de délibération jeudi, elle est censée reprendre ses travaux aujourd'hui. Objectif, approuver les articles de mise en accusation du président Donald Trump. Les élus démocrates, majoritaires à la Chambre, veulent punir le chef de l'exécutif américain pour abus de pouvoir. Mais les républicains dénoncent le processus comme étant politiquement motivé. Éric Maniracusa.
Les articles de mise en accusation sont toujours en discussion à la commission judiciaire de la Chambre. Les démocrates accusent le président d'abus de pouvoir et d'entrave à la marche du Congrès, Gerald Nadler, président de la commission judiciaire de la Chambre.
Et lorsque le président exige qu'un gouvernement étranger enquête sur ses rivaux politiques, il corrompt nos élections. Pour les pères fondateurs de ce pays, ce type de corruption est particulièrement pernicieux. Des élections libres et équitables sont le socle de notre démocratie. Si nos élections sont corrompues, tout est corrompu.
Le républicain Doug Collins, numéro 2 de la même commission, soutient le contraire.
Le gros mensonge que nous entendons ici n'est pas que la fin justifie les moyens. Le mensonge de cette mise en accusation trompeuse est que la menace est réelle, urgente et imminente. Le gros mensonge, c'est que l'opportunisme politique est honorable. L'histoire a déjà montré que c'est faux et dangereux.
À la base, aussi le débat s'inscrit dans la même ligne partisane, la démocrate Demings, députée de Floride.
Je sais que personne n'est au-dessus de la loi, mais la loi ne signifie rien. Si l'accusé, l'homme qui est entré chez vous par effraction, ou le président, peut détruire les preuves, empêcher des témoins de témoigner et refuser ouvertement de coopérer avec l'enquête, je vous demande de citer quelqu'un dans votre famille ou dans votre communauté à même d'agir ainsi.
La réponse du républicain Jim Jordan, autre député de l'Ohio.
Il ne s'agit pas de l'Ukraine. Le président ukrainien Zelensky a dit qu'il n'a pas subi de pression, que les Ukrainiens ne savaient même pas que l'aide a été gelée au moment de l'appel. Et surtout, ils n'ont rien fait pour que l'aide soit débloquée. Il s'agit d'un seul fait fondamental. Les démocrates n'ont jamais accepté la volonté du peuple américain.
Une fois que la commission judiciaire aura approuvé les articles de mise en accusation, la Chambre, dominée par les démocrates, passera au vote en plénière la semaine prochaine. Puis le dossier sera transmis au Sénat pour un procès. Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine du Sénat, a fait savoir que ce sera le premier acte des sénateurs le mois prochain. Donald Trump a des chances d'être exonéré, car il faut la majorité de 2/3 des 100 sénateurs pour destituer le président, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis.
Et pour terminer, élection législative au Royaume-Uni, victoire pour le parti du Premier ministre Boris Johnson. Les conservateurs ont remporté le scrutin avec une majorité écrasante, donnant aux champions du Brexit la sortie du pays de l'Union européenne les coups des franges pour accomplir cet objectif le 31 janvier. Jean-Roger Bion.
La victoire est sans appel pour les conservateurs. Les Tories remportent 368 sièges sur 650 contre 317 lors du précédent scrutin en 2017. Les travaillistes de Jeremy Corbyn s'effondrent à 191 sièges contre 262 et les appels à la démission du patron du Labour ont déjà commencé à fuser. Cette large victoire permettra au chef du gouvernement de faire ratifier rapidement l'accord de retrait qu'il a négocié avec l'Union européenne, ce qui permettrait au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier. Pour rappel, Boris Johnson n'avait pas réussi à faire adopter par le Parlement britannique l'accord de divorce qu'il avait négocié avec Bruxelles, faute de majorité à la Chambre des communes.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com.